sommes toujours dans les noces de Cana et il y a deux paroles de Jésus, de Marie, pardon, pendant les noces de Cana. Comme on verra tout à l'heure d'ailleurs, il y a deux paroles de Marie dans l'Annonciation. La première, elle était dite à Jésus. La deuxième, elle sera dite au serviteur. La réponse de Jésus à la demande de Marie, elle est un petit peu mystérieuse et elle pose beaucoup de problèmes aux exégètes. Parce que Jésus emploie une formule qui revient à peu près à dire « qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi ?» Et donc on va chercher dans la Bible, non. Et il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Et ça paraît une fin de non-recevoir. Alors, mon propos ici n'est pas d'approfondir exégétiquement cela. Mais c'est de voir l'effet de cette parole, parce que si elle peut paraître négative, on peut avoir une interprétation négative, ce qui n'est pas obligé d'ailleurs, il ne semble pas, parce que ça ne décourage pas Marie pour 3 sous. Hein? Donc je veux dire, ce n'est pas forcément cette interprétation négative. Et puis deuxièmement, Jésus aussi, ça ne décourage pas Marie qui parle aux serviteurs. Et Jésus va se tourner aussi vers les serviteurs d'une manière tout de suite. Donc quand on lit, on peut être un peu bousculé. Je veux dire, ça demanderait trop de temps, puis c'est pas notre propos tout de suite. Hein. Mais ça montre aussi cette idée de « mon heure n'est pas encore venue ». Ça va. Bon, c'est tout le problème de l'heure chez Saint Jean, là aussi il peut y avoir plusieurs interprétations. L'heure, c'est le moment de sa révélation, mais c'est surtout le moment de la croix, hein, et donc de la révélation toute plénière. Là, c'est la révélation qui va commencer, qui va avancer. Mais bon. Ce que je m'attacherai à regarder avec vous, c'est ce témoignage. On était tout à l'heure, et on va y rester, dans le témoignage de confiance à faire envers Jésus. C'est la seule fois où Marie donne un conseil, où elle donne une consigne. Et ceci va être comme un testament. Ça va être comme quelque chose qui va permettre, d'ailleurs, la flamme d'amour ici que regarde Saint Bernardin de Sienne, c'est la flamme d'amour qui consume, hein. Tout est qui accomplit, tout est consommé. Alors, il y a dans l'Ancien Testament un passage qui serait intéressant d'aller voir, parce que « faites tout ce qu'il vous dira », c'est pratiquement la citation de ce que le Pharaon dit à son peuple au moment de la famine. Il dit à son peuple, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. C'est dans la Genèse 41, 55. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, qui est déporté en Égypte et qui, après des épisodes et des vicissitudes et des plongées dans les difficultés qui rebondissent, mais la grâce de Dieu est avec lui, il remporte des victoires qui ne sont pas efficientes tout de suite, mais à la fin, il interprète les songes de Pharaon et il devient premier ministre, et c'est par lui que ses frères vont être sauvés. Et il y a un petit peu, l'Église a toujours vu comme une préfiguration, hein, de Jésus. Joseph sauve le peuple, le pays de la famine, et il sauvera son peuple, et Jésus va sauver l'humanité de la famine spirituelle, hein, et de la mort du péché. Et pour cela, il ne faut que la confiance. Et comme ça, on voit Jésus, qui est le nouveau Joseph, l'intendant des biens de Dieu. C'est lui qui a reçu aussi l'esprit sans mesure, dira saint Jean un peu plus loin. Il va nous donner le vin de la charité. Et ici, on peut voir aussi une allusion eucharistique, aussi, dans un sens. Mais le vin de cet amour qui fait vivre. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça reprend, si vous voulez, je vous disais un peu le dernier mot de la vie du Christ où tout est accompli, tout est consommé. Et c'est aussi d'ailleurs après la parole de Jésus, j'ai soif, qu'il va dire tout est accompli. Si on obéit ici à Marie, on peut être sûr que tout est accompli dans notre vie chrétienne. Le père Lamy, qui suivait une retraite une année chez des jésuites, ses collègues étaient très étonnés parce que il avait pris quasiment aucune note. Et il avait pris qu'une note, c'était faire la volonté de Dieu. Et pour lui, c'était l'essentiel. Se conformer en toutes choses au bon plaisir du Christ, chercher tout ce qui plaît à Jésus, tout ce qui plaît au Père, et l'accomplir avec la promptitude des serviteurs des noces de Cana, avec pleine conscience, c'est ça la sainteté, tout simplement. Vous vous souvenez, je vous ai déjà cité Romains 12, le sacerdoce royal des baptisés, offrez vos corps et cette disponibilité en sacrifice de bonne odeur, pour que vous soyez transfigurés par votre intelligence, pour rechercher ce qui, non pas sur le monde, mais sur le cœur de Dieu, pour découvrir ce qui est bon, utile, ce qui plaît à Dieu. C'est difficile parce que quand on entend souvent faire la volonté de Dieu, comme je vous ai dit aussi en passant l'autre jour, on pense que ça va être embêtant, ça va être quelque chose. Mais faire la volonté de Dieu, regardez comment Jésus fait la volonté de Dieu. Vous avez dans saint Jean, chapitre 8, c'est comme la joie du Fils bien-aimé qui fait tout ce qui plaît au Père. Jésus a recueilli, Jésus sait ce qui plaît au Père. Ce qui plaît au Père, c'est que nous puissions vivre dans la plénitude de notre vocation, c'est-à-dire libérés de l'esprit de domination et de concupiscence. Le désir qui attire pour lui, qui aime pour lui, ou simplement qui veut marquer son pouvoir. Et tout le projet de Dieu, c'est ça. Et toute la vie de Jésus, il accueille ça avec... Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est quelque chose... C'est pas simplement... Nous, on vit trop dans l'Ancien Testament, dans une religion naturelle, etc., où on veut... il dit ça, je dois le faire, etc., avec une loi extérieure. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Et nous vivons dans l'intimité de Jésus. Jésus qui est dans l'intimité de ce Père. Et nous sommes appelés à porter ce message merveilleux, que nous sommes appelés à être libérés de ce qui nous entrave, l'esprit de domination, l'esprit de concupiscence. Vous vous souvenez, c'est c'est le résumé des conséquences du péché, où Adam et Ève, c'est-à-dire nous, nous sommes, avant le baptême, nous sommes, sous cette loi, sous cette loi. Quand on échappe à Dieu, quand on sort de Dieu, alors que Dieu veut faire de nous des êtres de communion. Et faire la volonté de Dieu, être attentif à la volonté de Dieu, à travers les paroles de Jésus, c'est tout ce qu'il va me dire. Dieu, il parle de maintes manières, il parle dans l'Écriture, il parle dans l'Évangile, il parle au aussi dans le cœur, il parle à travers les événements, mais de vraiment porter cela. Vous voyez, la vie de Jésus, elle va être aussi ce... il va vers la croix, non pas parce que c'est juste écrit dans le ciel, et c'est un truc, et c'est un plan qui se fait, c'est aussi Jésus qui recherche la volonté de Dieu et qui découvre comment se situer par rapport au rejet de l'homme, par rapport au non-amour de l'homme. Hein. Et il va jusqu'au bout, parce que c'est la manière dont il rencontre, parce que jusque-là, il est capable, lui, de porter cet amour du Père. Et rien ne le séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, comme dit saint Paul, Jésus, rien ne le séparera de l'amour du Père. Il continuera à être celui qui nous aime, à celui qui est miséricorde, hein, jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ces paroles de Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Cette nourriture, c'est ce pain délicieux, hein, ce pain délicieux comme la manne quotidienne. Vous savez, il y a un petit verset quand vous avez le prêtre qui dit le tantum ergo en latin et qui dit le petit verset après, hein, et qu'il le dit en latin. Alors aujourd'hui, c'est un peu embêtant parce que l'autre jour, j'étais en train de Paris pour la nuit des témoins organisée par l'église en détresse. Et il y avait à la fin une bénédiction du Saint-Sacrement. Et puis le prêtre, il va de son petit verset Panem de celis prestitiis. Personne dans la cathédrale n'a répondu, sauf moi qui avais pris un micro, qui avait « Omne delectabentum in se abentem ». Ça sonne bien. Hein. C'est pas parce que ça sonne bien, c'est parce que c'est un petit verset génial. Ça reprend le livre de la sagesse qui parle de la manne, l'Eucharistie et la manne. Hein. Vous leur servez le pain du ciel, hein, et on répond, alors en français c'est un peu nul quoi, hein. Il a en lui toute joie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le pain, il arrive. Tandis que, omne delectabentum in se abentem. Ce pain, il a en lui tous les goûts. Et c'est ce que dit le livre de la sagesse, le chapitre 16, verset 20. Hein, c'est que la manne, elle avait le goût de ce que chacun désirait. Elle remplit notre cœur de ce dont nous avons besoin. Pour rigoler, je dis, pour ceux qui aiment le Nutella, elle avait le goût de Nutella, pour ceux qui aiment le piment, elle avait le goût de piment. Mais ça, c'est pour rigoler, vous comprenez bien. Mais c'est au sens profond. Hein. Elle correspond, elle va nous nourrir vraiment dans ce que nous avons besoin. Donner les vrais nutriments dont nous avons besoin. C'est l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui est... Parce que l'Eucharistie, c'est justement aussi un des signes les plus forts de Jésus qui obéit à son Père, hein, qui transmet, qui donne se faire la volonté de Dieu, et ça nous aide aussi. Alors, vous voyez, je vous disais un peu, et Marie, c'est son testament qu'elle nous donne ici, c'est vraiment le secret de sa vie. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on peut faire un parallèle entre l'Annonciation et Cana. Et ce que Marie a vécu profondément, ce qu'elle est profondément, comme on a vu dans l'Annonciation, elle nous le transmet et elle nous demande et elle nous fait participer de ce mouvement à Cana. Je m'explique. Première parole de Marie à l'Annonciation, je ne connais pas d'homme. Elle expose une pauvreté, un manque, pour comment elle pourrait penser l'accomplissement. Ben, je vois pas comment ça va accomplir. De l'autre côté, ils n'ont pas de vin, ils exposent un manque. Et la deuxième parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ici, la deuxième parole, c'est faites, qu'il me soit fait, faites. Tout ce qu'il vous dira, dira parole. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le secret de ce qu'elle a vécu à l'Annonciation, de savoir ouvrir son intelligence, de chercher, de poser sa question, mais dans une réponse de foi, comme on a vu, hein, et ensuite de se livrer au Seigneur, de rentrer dans cette volonté de Dieu. Eh bien, c'est son secret, c'est notre secret. puis à une autre, elle nous donne ce secret à Cana. Et on la contemple parce que tout au long de sa vie, elle a toujours renouvelé ce fiat, cette obéissance inconditionnelle à la volonté du Père. Cette obéissance à ce qu'elle a reçu de Jésus. Et vous avez vu, quand on a parlé de, hier, du recouvrement de Jésus au temple, hein, on voit comment ce qu'elle reçoit, comment elle est rentrée, on essaie de regarder comment elle est rentrée dans ce qu'elle reçoit de Jésus à ce moment-là, en portant dans son cœur. J'ai toujours un petit peu peur quand je vous parle ici d'obéissance inconditionnelle, de confiance totale, etc., qu'on se dise c'est trop. Hein? Et ici, mais vous voyez, Marie, c'est pas quelque chose d'instantané pour nous aussi, on est pêcheurs, donc il faut du temps. Et puis, alors, évidemment, plus on se livre au Seigneur, plus ce sera génial. Hein? Mais en même temps, le Seigneur nous regarde avec pédagogie, j'allais dire. Hein? Et on apprend, et avec Marie, on la voit. Elle ne comprend pas forcément tout de suite, elle ne voit pas, elle sait, mais elle garde dans son cœur. Mais, vous voyez, je dis, elle se renouvelle toujours, elle avance, c'est une, comme de toute façon dans un amour humain, dans le couple aussi, c'est une relation qui avance, qui n'est pas figée, etc., et qui est appelée à se développer, à répondre, c'est une relation vivante avec le Seigneur, vous voyez. Et Marie, et nous sommes obligés de renouveler notre oui, hein, dans les situations différentes, avec les éléments plus profonds, avec cet amour qui grandit, avec cette intelligence plus grande, cet amour plus grand. Le chemin de la sainteté, de la paix du cœur et de la joie véritable, hein, voilà, il est dans cette croissance. Il est dans ce garder sa parole, la mettre en pratique. Vous voyez, ici, on voit la même chose aussi, c'est faites tout ce qu'il vous dira, même si vous n'allez pas vraiment comprendre. Hein, parce que, je ne sais pas ce qu'ils ont compris les serviteurs quand on leur a demandé de remplir les 6 cuves de pierre, qui représentent à peu près 600 litres pour les ablutions, alors que c'était plus l'heure des ablutions, parce que c'était la fin, je ne vois pas très bien. Mais ils l'ont fait. Du côté de Marie, elle n'a mis aucune condition parce qu'elle sait que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des moments où on comprend très bien ce que Jésus veut. Hein. Il y a des moments où c'est plus difficile de comprendre, on l'a vu hier, mais où le Seigneur nous invite à avancer. Et ici, Marie, elle nous invente. C'est intéressant parce que Marie, c'est vraiment ce sens, je le disais au tout début. Hein, Marie, elle nous enfante à la foi ici. Du côté des serviteurs, nous, on est un peu du côté des serviteurs. Des fois, on commence à raisonner. Oui, mais enfin, pourquoi. À raisonner, à contester, à dire que c'est pas approprié, etc. Et puis là, c'est un peu foutu. Hein, quand on ergote pendant ce temps, on peut poser la question. C'est différent entre poser la question et puis entre ergoter et puis de vouloir la preuve avant de commencer. Jésus attendait leur foi, comme il a attendu le fiat de Marie, comme il a attendu aussi le. Dans l'annonciation à Pierre, le oui de Pierre, hein, quand ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris, pour qu'il se passe quelque chose, il fallait que Pierre accepte aussi de jeter le filet. Hein. Et très souvent, pour nous, c'est important, il faut accepter de se mettre à l'eau, hein, en parlant de jeter le filet. Ça me rappelle une chose, parce que mon corps spirituel, il y a des années, dans une situation de conflit, etc., puis moi j'étais là, j'étais à l'eau, puis j'ai quand même à l'autre de faire le premier pas. Et alors il a piqué une colère, c'était vraiment pas quelqu'un qui était colérique, c'était plutôt quelqu'un de très doux. Et il a piqué une colère en disant d'une manière très ferme, Mais quand on est chrétien, il n'y a pas de question de premier pas. C'est le Christ qui a toujours fait le premier pas. Et nous, on est un peu, oui, j'attends un peu. Non, parce que c'est cet engagement. Me voici, Seigneur. Là aussi, c'est Marie qui est là avec son annonciation. Mais me voici, Seigneur. Et nous, on est à attendre, à calculer, à dire, oui, c'est pas approprié, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas de l'ordre du calcul. Bon, des fois, on a l'intelligence qu'il faut peut-être pas agir trop vite, etc. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tête baissée, mais c'est-à-dire que faut pas calculer au sens de la ruse du renard, simplement, pour ne pas s'engager soi-même. Encore cette phrase de Jésus, vous voyez, qui vous êtes mes amis, dans Jean, toujours, si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. De suivre la lumière que Dieu nous donne aujourd'hui. De demander la lumière et de suivre la lumière qu'il nous donne pour aujourd'hui. Et ainsi, nous allons avancer pas à pas. Et cette confiance qu'il nous demande, ne nous trompons pas, elle est énorme, mais elle n'est pas au-dessus de nos forces. Et pour ça, j'aimerais reprendre avec vous l'histoire de Naaman le Syrien. Vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien? Vous avez un Syrien de Syrie, d'accord, qui est général, un très haut gradé, du roi de Syrie. Et il s'aperçoit qu'il commence à avoir la lèpre. Vous voyez le drame. Il va perdre son emploi, puis la fille à la fin. Et puis, il y a une petite servante, une esclave, une petite israélienne qui a été prise en otage. Elle est en otage depuis plusieurs années et elle sert chez eux, et qui dit, si mon maître il était en Israël, il y a quelqu'un là qui pourrait le guérir. Bon. Alors il se renseigne, etc. Et puis il demande l'autorisation au roi d'aller faire une ambassade, d'y aller. Il va avec toute tout son équipage qui est immense. Il arrive près du roi d'Israël. Et il dit, il présente la lettre du roi, guéris mon serviteur. Alors le roi dit, attendez, c'est un casus belli, là il me cherche, là, il m'insulte, il veut que je sois le bon Dieu pour lui, moi je suis pas le bon Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui dit, c'est pas le roi, c'est Élisée le prophète. Alors il arrive chez Élisée le prophète, et puis il se présente avec son équipage, ses chevaux, son char, etc. Et puis il demande audience. Et puis le brave Élisée, il envoie son serviteur, Guérazi, pour aller dire, si tu veux, le Seigneur te veut du bien, et si tu veux être guéri, descends dans le Jourdain, donc il doit faire le chemin dans l'autre sens, descends dans le Jourdain et baigne-toi 7 fois. Le type, Naaman, est complètement furieux, je pensais au moins qu'il allait sortir, qu'il allait venir, qu'il allait tendre des mains, qu'il allait faire une prière, etc. Et il m'envoie son serviteur, non, il me prend pour qui? Et il tourne bride, et il est furieux, il repart. Il dit, les eaux de ce qui coule à Damas, le parpar et la manna, ils sont aussi bien capables de guérir. Etc. Et puis, il a un serviteur qui ose, il est en colère, alors on n'osait pas trop l'approcher, mais qui lui tire la manche, il dit, maître, si tu avais prescrit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Oui. Bon, puisque c'est pas très compliqué, comme on passe par le Jourdain, il faut toujours essayer de s'y baigner. Et il se baigne et il se retrouve avec une peau de bébé. Super. C'est le texte qu'il dit. Super, c'est moi qui le rajoute, mais peau de bébé. Bon. Voilà. Et l'histoire, elle est assez intéressante aussi pour notre manière de faire la vie et comment on est conduit dans la dans la volonté de Dieu. Hein. Nous, on s'imagine, ça va être comme ça, ça devrait être comme ça si c'est Dieu qui agit. Et puis ça passe par des choses toutes simples. Et puis ça passe, et nous, on s'enorgueillit, on pense, ça doit être comme ça, ça devrait être, etc. Ça ne prend pas le chemin qu'on veut. Hein. On pense, on a toujours des idées fausses aussi de la vie chrétienne, en pensant que ça devrait être une vie héroïque, une vie, etc. Enfin, voilà. Hein, c'est, tout le monde n'est pas appelé à être. Tout le monde est appelé à faire la volonté de Dieu, tout le monde est appelé à être saint, tout le monde n'est pas appelé à être Saint-François Xavier ou Marc Robin ou Fabrice Guillot, etc. Hein, mais faire ce que toi. Et souvent, la voix, elle passe comme dans mon récit là, de Naaman, enfin, c'est pas le mien, c'est celui de la Bible. Hein, ça passe aussi par les conseils des petits. La petite servante qui est à Damas, hein, qui est prisonnière, qui est bien humble, même si elle a peut-être été insolente, dans la manière dont je l'ai imité au moment où elle a dit, oh, ben, elle n'a peut-être pas été. Hein. Et ça passe par le serviteur qui ose affronter la colère de Naaman et lui dire, finalement, s'il t'avait dit de faire facile. Vous voyez, ça passe aussi, ça passe par les petits, ça passe par des choses toutes simples. Mais à travers tout ça, une seule chose est demandée, c'est la confiance, la foi et l'obéissance à sa parole. Mais là encore, hein, très souvent, on est tellement déformé en pensant à l'obéissance, en le voyant d'une manière extérieure. N'oubliez pas que la vie chrétienne, elle commence quand on est baptisé et qu'on a reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, l'expérience chrétienne, toujours, c'est vraiment cette expérience de Dieu a fait habiter son esprit, son amour, dans notre cœur. Et il faut toujours revenir à l'intériorité. Vous pouvez vous demander des fois pourquoi... le christianisme tel qu'il était encore il y a quelques années tombe, ben parce qu'on l'avait peut-être un peu trop défiguré, et il ne restera en fin de compte que le petit reste, que ceux qui acceptent de vivre cette vie intérieure. Hein? C'est-à-dire que être chrétien, c'est pas être d'un parti, c'est pas être de suivre des préceptes ou un idéal, c'est s'ouvrir pour renaître de nouveau, pour laisser cet amour de Dieu tel qu'il est en Dieu habiter en moi, le laisser me transfigurer petit à petit, me transformer. C'est ça obéir, c'est ça obéissance, c'est ça faire confiance. C'est d'abord dans ce mouvement de recevoir et de se laisser transformer. Et si je reviens, parce que c'est quand souvent on entend faire la volonté de Dieu, c'est un truc, je dois faire des trucs, je dois accomplir, je dois trucs, et puis on se complique la vie. Non, c'est accueillir et ne pas mettre d'obstacle à la manière dont je suis aimé infiniment pour pouvoir moi aimer infiniment. Jésus, laisser Jésus aimer à travers moi. Mais vraiment. Avec ma tendresse qui devient sa tendresse. Ou je prête ma tendresse à la sienne. Hein, qui prend petit à petit la forme de la sienne et non plus de la mienne. Hein, mais qui est complètement la mienne. C'est cette synergie dont on parlait au début, cette coopération, cette participation. Et voyez ici, et du coup, ben, d'accueillir le Seigneur, de faire sa volonté, comme je disais tout à l'heure, reprenant le texte de Saint Jean, c'est vraiment une joie. C'est vraiment une nourriture. C'est vraiment quelque chose qui remplit. Et ce n'est pas un fardeau inacceptable. Quand on regarde Marie, on n'a pas l'impression hein, que c'est à l'Annonciation, que c'est un truc qui l'embête. Et puis elle veut bien parce que le Seigneur l'a choisi, mais on se demande bien pourquoi. Hein. C'est son cœur qui va être rempli, qui va être transformé par cette présence de Jésus. Et c'est d'abord... Notre vie chrétienne, c'est d'abord cela. Et quand vous faites prier les enfants, n'oubliez jamais de les introduire à cette vie intérieure, à cette présence de Jésus, à cette dimension intérieure. Nous sommes appelés à accueillir, à découvrir cet amour, en nous laissant aimer d'abord. Alors c'est vrai, c'est directement l'Esprit Saint Et à la fois, c'est aussi à travers l'expérience qu'on leur en donne de la responsabilité de transmettre cette expérience. La confession, c'est très important, parce que la confession, on arrive comme le dernier des brigands, et on ressort comme un fils de roi. Et si c'est pas comme ça, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Enfin, il faudra dire au prêtre de retourner à l'école. Hein? Mais c'est ça. Hein? Et ce qu'on vit dans la confession, ce qu'on célèbre de la confession, on est appelé à le vivre, chacun de nous, d'une manière aussi plénière, et à le transmettre aux autres pour faire vivre le pardon. Les ministres de la réconciliation, les ministres, c'est les prêtres, mais c'est aussi, dans une fonction différente, mais c'est la réalité de toute l'Église qui porte ce pardon, hein, qui est appelé à être des relais de ce pardon. Voilà. Donc demandons, hein, et la seule chose qui compte, hein, la seule chose méritoire dans notre vie, c'est pas de faire des choses héroïques, ou la souffrance, ou le renoncement, ou je sais pas quoi, hein, mais c'est la foi vivifiée par la charité. Il y a une grande dispute au Moyen-Âge entre Saint Bernard et ses contemporains de savoir qu'est-ce qui sauve. C'est la souffrance, hein, et non, c'est pas la souffrance, répond Saint Bernard. C'est simplement l'amour. L'amour qu'on va être capable, dans la situation où on est, qu'elle soit facile ou difficile, mais de faire la foi vivifiée par la charité. C'est ça qui sauve, qui nous sauve, qui nous fait ça, et qui sauve aussi tout ce que nous rencontrons et que nous portons dans notre cœur.